Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons football au lendemain de la réélection sans surprise de Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Samuel Eto'o, lui, fait son entrée au comité exécutif de la CAF. L'occasion donc ce matin de dresser un état des lieux du football sur le continent. Quelle image déjà vous renvoie l'instance dirigeante du foot africain ? Et parlez-nous des infrastructures dans votre pays, les championnats, le niveau de jeu. Dites-nous si le gouvernement s'ingère dans les affaires de votre fédération nationale. Vos réactions, évidemment, nous intéressent et le sujet ne vous laisse pas indifférent. On a des auditeurs qui nous contactent du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Gabon, du Bénin, du Sénégal, du Congo, Congo-Brazzaville. On vous attend évidemment au standard 33 9 693 693 70 et vos commentaires, comme tous les jours, sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions à la rédaction de RFI. Bekaye est avec nous ce matin. Il est à Baliga, au Sénégal. Bonjour Bekaye.
Oui, Juan, bonjour.
Dans la région de Thiès, merci de nous écouter sur place. Des questions concernant votre pays, le Sénégal,
oui,
où
oui.
L'Assemblée nationale a adopté ce mardi à l'unanimité une loi qui autorise le président de la République à ratifier une convention entre le Sénégal et le Maroc, convention qui permettra notamment d'encadrer le transfert des détenus.
Oui, oui, donc permettez-moi juste de saluer en tout cas à tous mes compatriotes sénégalais et à toute la population de Baliga.
Très bien, ben voilà, le message est passé. Vos questions, Bekaye.
Oui, 299 ressortissants sénégalais sont aujourd'hui incarcérés au Maroc. Maintenant, je voulais savoir quelles sont les raisons derrière leur détention, mais également que prévoit la Convention sur les conditions de leur extradition.
Ah, l'extradition, voilà un sujet qui intéresse les Sénégalais, d'autant que certains se demandent si cette convention pourrait servir dans le cadre d'éventuelles poursuites contre l'ancien président Macky Sall qui vit au Maroc. On va en parler bien évidemment. Bonjour Léa Lisavesteroff.
Bonjour Juan, bonjour Bekaye.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. Les ressortissants sénégalais en prison au Maroc, visiblement, sont plus nombreux que ce que Bekaye vient d'annoncer.
Oui, c'est vrai que les autorités sénégalaises avaient parlé d'abord de 299 ressortissants sénégalais détenus. Finalement, mardi, la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, a évoqué 340 personnes actuellement détenues au Maroc, 172 à Dakhla, 168 à Laayoune, deux villes du Sahara occidental, tout au sud du Maroc. Ces prisonniers, eh bien, ils purgent des peines qui vont de 2 à 12 ans de prison. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement pour des délits tels que le trafic de migrants, les escroqueries et le vol, mais la grande majorité a été arrêtée après avoir tenté de partir en tant que migrant clandestin ou pour trafic de migrants, ce qui explique d'ailleurs qu'il soit détenu dans ces prisons tout au sud du pays, donc non loin de la frontière avec la Mauritanie. Cette convention, une fois ratifiée par le président, devrait donc leur permettre de bénéficier d'une assistance consulaire et de la possibilité de revenir au Sénégal s'ils le souhaitent pour purger leur peine. Pour les autorités sénégalaises, cette loi vient combler un vide juridique car s'il y a un accord de coopération judiciaire qui date de 1967 entre le Maroc et le Sénégal, jusqu'à présent, il n'y avait pas de texte pour encadrer ces demandes d'assistance consulaire et de retour. 38 Sénégalais détenus auraient d'ailleurs déjà fait la demande de rentrer au Sénégal, selon le ministère des Affaires étrangères.
Et que prévoit cette convention sur les conditions d'extradition ?
Eh bien, rien finalement, tout simplement, puisque cette convention ne porte pas sur les conditions d'extradition, mais uniquement sur les modalités de retour et de protection de Sénégalais qui ont été arrêtés ou condamnés au Maroc et vice-versa, pour leur offrir, comme je le disais, une assistance consulaire et humanitaire, c'est-à-dire très concrètement, ce sera au Sénégal de payer les frais de rapatriement de ces détenus au Sénégal s'ils en font la demande. Et c'est d'ailleurs pour pour cette raison, hein, entre autres, que ce texte ne concerne pas l'ancien président Macky Sall qui réside au Maroc depuis son départ du pouvoir et alors que les nouvelles autorités ont promis qu'il ferait face à la justice.
Alors oui. Justement, Bekaï, vous avez une question concernant l'ancien président sénégalais.
Oui, effectivement. Je voulais savoir, est-ce que l'ancien président Macky Sall pourrait-il être extradé à la suite de cet accord, même sans avoir été condamné au Maroc?
Alors, Léa Elisa Vesterov.
Eh bien, impossible, hein, Bekaï, puisque, comme je le disais, aucun des 24 articles de cette convention ne porte sur la possibilité d'extrader un ressortissant sénégalais depuis le Maroc, c'est-à-dire de le forcer finalement à revenir. La convention prévoit la possibilité de revenir au Sénégal si le détenu ou la personne condamnée le souhaite. Et puis, vous le disiez, c'est bel et bien pour des personnes qui ont été condamnées ou qui sont détenues au Maroc, ce qui n'est bien évidemment absolument pas le cas pour le moment de l'ancien président Macky Sall. Mardi, la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, a bien clarifié ce point. Cette loi ne vise pas l'ancien président Macky Sall, a-t-elle dit, car le timing de l'adoption de ce texte, vous vous en doutez, avait bien évidemment soulevé cette question, alors que les nouvelles autorités assurent que Macky Sall devra faire face à la justice. Et justement, pour ce qui est de l'ancien président, le gouvernement dit être en train d'examiner la possibilité de signer d'autres accords avec le Maroc, et notamment sur ces fameuses modalités d'extradition. La ministre des Affaires étrangères sénégalaise l'a redit mardi, je cite, « Des discussions sont en cours entre le Sénégal et le Maroc autour de la signature de 3 autres projets de convention judiciaire qui portent sur l'entraide en matière pénale, civile et commerciale et l'extradition et qui pourraient à ce moment-là concerner l'ancien président Macky Sall. » Mais à suivre, pour le moment rien de concret, sachant qu'il est bien sûr extrêmement complexe d'extrader un ancien président, Juan.
Et les auditeurs ne manqueront pas l'occasion demain dans la Libre Antenne de commenter cette actualité. Bekaï, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, Juan, je suis totalement satisfait.
Eh bien, on remercie Léa Elisa Vesterov, correspondante permanente de RFI à Dakar. Bekaï, bonne journée à Thiès, où on nous écoute sur les 100.2 FM. 9h17 à Paris, d'autres questions à la rédaction. Bonjour Alexis.
Bonjour Juan.
En République démocratique du Congo, vous avez des questions sur une affaire d'espionnage?
Oui.
On vous écoute.
La Russie a expliqué des diplomates britanniques qui les accusent d'espionnage.
Oui.
Quelles sont les preuves avancées par Moscou?
Alors, quelles sont les preuves avancées par Moscou? En tout cas, les services de sécurité russes affirment que la femme d'un diplomate et un diplomate de 34 ans ont effectué un travail de renseignement qui aurait menacé la sécurité du pays. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Juan, bonjour Alexis et bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Londres, sur quels indices s'appuie la Russie pour affirmer que ces deux Britanniques étaient bien des espions?
Moscou n'a pas publié de documents pour prouver ces allégations, mais elle assure que les deux Britanniques, l'un diplomate, l'autre marié à un diplomate, ont menti sur leur demande de visa et ont engagé, je cite, des travaux subversifs. En bref, la Russie accuse les deux Britanniques d'espionnage, a révoqué leurs accréditations et leur a donné 2 semaines pour quitter le pays.
Voilà donc pour les explications. On peut pas vous en dire plus, Alexis. Vous avez d'autres questions?
Oui. Comment réagit Londres et pourquoi les accusations d'espionnage sont-elles récurrentes entre les deux pays?
Alors, Emeline Vin, comment a réagi Londres après ces expulsions?
Eh bien, la diplomatie britannique dénonce des allégations infondées et malveillantes, mais le ministère des Affaires étrangères se montre surtout résigné. C'est pas la première fois que cela se produit. Même, on s'y attendait ici. Moscou avait indiqué le mois dernier qu'elle allait recourir à des expulsions diplomatiques en réaction au renvoi par le Royaume-Uni d'un diplomate russe. Déjà, une réplique à l'expulsion par la Russie d'un diplomate britannique en novembre. En résumé, ces mouvements de diplomates sont récurrents. Londres expulse, du coup Moscou expulse,
oui,
du
donc
coup Londres expulse.
On est dans une, on va dire, c'est œil pour œil, dent pour dent.
Oui, une sorte de loi du talion à répétition. À prendre en compte aussi, quelques jours plus tôt, 3 ressortissants bulgares ont été condamnés ici pour espionnage au profit de la Russie.
Oui, ces 3 bulgares encourent jusqu'à 14 ans de prison. Alexis pose une question intéressante. Pourquoi y a-t-il autant d'accusations d'espionnage de part et d'autre à Londres, à Moscou?
Alors, il y a deux éléments de réponse, en tout cas du côté britannique. Hein. Un contexte historique et puis la volonté d'envoyer un signal. Historiquement, déjà, le Royaume-Uni a été victime de l'espionnage russe. En 2006, un ex-agent du FSB réfugié en Angleterre est empoisonné au polonium à Londres. Alexander Litvinenko décède après avoir rencontré des hommes du FSB dans un hôtel. Un assassinat que la Cour européenne des droits humains a attribué à l'État russe et ses services de renseignement. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, en 2018, la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal, un agent double, lui aussi réfugié au Royaume-Uni dans une petite ville anglaise, lui aussi est empoisonné avec sa fille. Ils en réchappent finalement, mais une Britannique exposée au Novichok par hasard décède. Cette attaque chimique, elle aussi, elle est attribuée à la Russie.
Et déjà à l'époque, si ma mémoire est bonne, Emeline Vain, Londres avait expulsé des diplomates russes.
Oui, imité d'ailleurs par ses alliés occidentaux, en mars 2018, à travers le monde, 150 diplomates russes sont renvoyés. En résumé, les affaires d'espionnage liées à la Russie rappellent des souvenirs très concrets aux Britanniques et ils font plutôt l'unanimité dans l'opinion publique. Je le disais, il y a aussi l'élément communication. Expulser des employés d'une ambassade étrangère, c'est un signal fort envoyé par un pays. Une manière de signifier son mécontentement quant aux politiques menées par telle ou telle capitale, sans aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Or, Londres est fermement opposée à la guerre en à la guerre menée en Ukraine par la Russie. Elle affirme régulièrement son soutien à Kiev. Les relations entre le Royaume-Uni et la Russie sont plutôt mauvaises, donc, surtout depuis que le Premier ministre Keir Starmer a indiqué qu'il était prêt à envoyer des troupes britanniques en Ukraine pour dissuader les Russes de poursuivre leur invasion. Bref, la multiplication des accusations d'espionnage et des expulsions de diplomates, c'est surtout la traduction des rapports glaciaux entre les deux pays.
Merci de vos explications, Emeline Vain. Alexis, a-t-on répondu à vos nombreuses questions ?
Parfaitement.
Bon, bonne journée en République démocratique du Congo. Merci à vous de votre fidélité et les explications d'Emeline Vain, si le sujet vous intéresse évidemment, sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. On va parler des négociations de paix en Ukraine. Esdras a des questions justement sur ce sujet d'actualité. Bienvenue Esdras.
Bonjour Monsieur Wan, sous votre permission, je vais jouer les prolongations de la commémoration de la journée de la femme en célébrant deux voix féminines de la radio du monde.
Allez-y.
Que sont Nathalie Amar et Magali Lagrange.
Nathalie Amar et Magali Lagrange, eh bien, vous avez bien raison de les saluer. On les embrasse d'ailleurs si elles nous écoutent en ce moment. Esdras, vos questions.
Les États-Unis et l'Ukraine se sont mis d'accord sur une proposition de cesser le feu de 30 jours. Que prévoit cet accord validé par Kiev et surtout... pourquoi Zelensky a-t-il accepté une trêve temporaire alors qu'il visait une paix durable ?
Oui, l'accord américano-ukrainien conclu mardi à Jeddah en Arabie Saoudite. Bonjour Cyril Brett.
Bonjour.
Géopoliticien, maître de conférences à Sciences Po Paris, vous êtes chercheur associé, spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale à l'Institut Jacques Delors. C'était la première fois depuis la rencontre houleuse entre les présidents Zelensky et Trump à la Maison-Blanche que des responsables américains et ukrainiens se retrouvaient à la même table. Cyril Brett, que prévoit donc cet accord ?
Il prévoit, comme l'a rappelé Esdras, une suspension de toutes les hostilités, pas seulement dans les airs et dans les mers, mais également sur terre, durant 30 jours pour pouvoir amorcer un cycle de discussion. Donc, si c'est un cessez-le-feu ou c'est une trêve, en tout cas, c'est une suspension de l'usage de la violence militaire entre les deux ennemis, donc la Russie qui avait envahi l'Ukraine.
Ouais, un cessez-le-feu donc immédiat et provisoire de 30 jours en contrepartie. Qu'obtient l'Ukraine ?
Elle obtient d'abord de renouer les relations avec les États-Unis, de ne plus se trouver dans la position d'accusé, parce que l'administration Trump 2 a, depuis plusieurs semaines maintenant, placé l'Ukraine dans la position qu'elle n'avait pas avant, c'est-à-dire celle de va-t-en-guerre, celle d'instigateur de guerre. Et donc, en fait, c'est un retour à une communication et c'est un retour à des échanges d'informations et de renseignements militaires et un retour à l'aide américaine.
Donc, c'est une aide indispensable. Une aide indispensable aux Ukrainiens.
Oui, indispensable, notamment la couverture satellitaire, les communications. En fait, cette proposition de cessez-le-feu de trêve, c'est surtout une trêve entre Washington et Kiev. C'est un retour à la normale entre les deux alliés qui, pour le moment, n'a pas suscité un grand intérêt chez l'ennemi en Russie.
Donc, cessez-le-feu en échange aide militaire et partage de renseignements des États-Unis. Et quid, Cyril Brett, des ressources minérales essentielles de l'Ukraine ?
Eh bien, ça a été, le sujet est repoussé. C'est-à-dire que ça a changé dans les relations entre États-Unis et Ukraine. Les États-Unis, Trump faisait de la signature de cet accord avantageux pour les États-Unis un préalable à toute continuation de l'aide militaire. Mais là, ça a été inversé, donc c'est plus favorable à l'Ukraine. C'est en fait une normalisation, là encore une fois, entre les deux alliés. C'est-à-dire que les États-Unis de Trump voulaient faire payer l'Ukraine avant d'envisager quelques suites à son soutien et à son action en faveur de la paix. Là, c'est plutôt la voie diplomatique classique, c'est-à-dire on soutient, on aide, on propose un cessez-le-feu, et ensuite on parle des dédommagements de l'aide de 320 milliards de dollars donnés par les États-Unis depuis 3 ans à l'Ukraine.
Et c'est pour ça que Zelensky, on répond là peut-être à la question d'Ezra, sa deuxième question, que Zelensky a accepté donc cet accord, cette trêve temporaire, plutôt que immédiatement un accord de paix durable.
Oui, la question d'Ezra, c'est celle qu'on se pose tous, c'est-à-dire à quoi bon avoir une suspension, une trêve qui est très fragile, qui est vraiment à la merci du premier coup de feu plutôt qu'un règlement général. Bon, alors il y a deux réponses. D'abord, une réponse de diplomatie générale. Un traité de paix, c'est très long à élaborer. Il faut régler un nombre de problèmes incroyables, territoriaux, humanitaires, de communication. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps, alors qu'un cessez-le-feu absolu, une suspension du feu, ça peut se décréter, ça peut se réaliser assez vite. Puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il vise Zelensky ? Ce qu'il visait jusqu'à l'élection de Donald Trump, c'était la victoire, c'est-à-dire la récupération de tous les territoires.
Et il ne parle plus de victoire maintenant.
Oui, alors il n'en parle plus, évidemment, ce serait un chiffon rouge pour l'administration américaine. Donc il a donné des signes de bonne volonté, le président ukrainien, en acceptant un cessez-le-feu, et donc en fait en donnant un succès diplomatique à l'administration Trump dans les premières semaines de l'administration Trump. Donc là, encore une fois, c'est sans doute un geste important dans les relations bilatérales Ukraine-États-Unis, mais pas encore dans les relations bilatérales Ukraine-Russie.
Cyril Brett, il nous reste 2 petites minutes et Ezras a encore des questions à vous poser. Allez-y, Ezras.
Quelles sont les chances que Poutine accepte ce cessez-le-feu ?
Ah, alors là, Cyril Brett, avez-vous un élément de réponse ? Avez-vous une boule de cristal ?
Oui, en fait, le président russe a répondu lui-même hier. Il a mis un uniforme et il est allé près du front. Donc, il a indiqué que les propositions de cessez-le-feu l'intéressaient peu pour le moment. C'est un peu compréhensible dans la mesure. Ses troupes progressent en Ukraine et dans la reconquête de Koursk. Oui. Donc, les chances sont maigres.
Et on a vu effectivement Vladimir Poutine hier en chef de guerre. Il est apparu en treillis à Koursk. Ce sont des images très rares qui en disent long, évidemment, d'autant que ces images elles sont filmées au lendemain de cet accord américano-ukrainien. En même temps, Trump a aujourd'hui quand même des moyens de pression sur Vladimir Poutine pour le pousser à accepter cet accord, ou pas ?
Oui, il a notamment la menace de continuer cette aide militaire aux Ukrainiens et même de l'augmenter. Mais enfin, il a surtout une faiblesse, c'est-à-dire qu'il est entré en négociation en disant qu'il était pressé de faire la paix. Dans une négociation, celui qui est pressé n'a généralement pas l'avantage sur celui qui se laisse le temps. Donc, on va voir, effectivement, vous avez raison, la Russie est sous la pression de l'administration Trump et on sait qu'elle peut être très importante. Mais en même temps, celui qui est pressé d'avoir un succès diplomatique et de revendiquer ensuite le prix Nobel de la paix, c'est Donald Trump. C'est sûrement pas Vladimir Poutine qui est devenu indifférent à sa réputation à l'Ouest.
Ezras, a-t-on répondu à vos questions ?
J'en suis satisfait et merci à la Radio du Monde.
Et merci à vous de votre fidélité. Merci Cyril Brett, géopoliticien, maître de conférences à Sciences Po Paris. Merci de nous avoir livré votre analyse et expertise sur ces négociations de paix concernant l'Ukraine. D'autres questions à la rédaction demain matin, vous n'hésitez pas, vous nous appelez tout au long de la journée, le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, je le dis régulièrement, surtout, ne publiez pas sur la page Facebook de l'émission votre numéro de téléphone. Faites-le en message privé et l'équipe vous rappellera quoi qu'il en soit. Mais évitez que votre numéro de téléphone circule publiquement. Restez avec nous. Dans 10 minutes, nous parlerons football au lendemain de la réélection de Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Comment se porte le foot dans votre pays ? On dressera ensemble un état des lieux continental. À suivre, le journal.